Vous écoutez
RMC. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Gilles Kepel.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes professeur émérite des universités, spécialiste du Moyen-Orient. Et on a bien besoin de comprendre où est-ce qu'on en est au fond. Est-ce que c'est le retour de la guerre après des frappes à nouveau, à la fois de la part de l'Iran, mais aussi de la part des États-Unis? Et puis cette information, c'est les confrères et américains qui le disent, mais citant des sources israéliennes qui auraient alerté Donald Trump sur le fait qu'il soit la cible des services secrets iraniens qui souhaiteraient l'assassiner. C'est crédible?
Alors ça s'inscrit dans un contexte où il y a effectivement beaucoup de tensions, vous l'avez rappelé. Un phénomène tout à fait surprenant, c'est que vous l'avez vu, Donald Trump est allé au sommet de l'OTAN à Ankara dans son palace volant offert par le Qatar, qui avait un peu, on avait un peu remis l'avion en place, mais on n'avait pas véritablement fait un avion aussi performant en termes de sécurité et d'avion militaire, d'une certaine manière, que le précédent, ce qui fait qu'on l'a fait revenir dans le vieil avion.
Il a changé d'avion au milieu, effectivement, de son de ce sommet de l'OTAN. Il est reparti avec le traditionnel Air Force One, semble-t-il, parce qu'il craignait éventuellement que le premier ne le protège pas suffisamment.
Voilà, ça semble de toute façon être le cas, indépendamment de toute velléité d'attentat prévu. Par ailleurs, on voit bien, on y reviendra tout à l'heure, que à l'intérieur des dirigeants iraniens aujourd'hui, ça tire à hue et à dia, et que vous avez une tendance maximaliste qui essaye de l'emporter sur ceux qui négocient, dans un contexte où il y a de moins en moins un guide suprême. On l'a enterré, ce guide suprême, avec chacun essayant de se prévaloir de son aura ou de son onction pour faire passer ses causes, mais le fils n'était pas là.
Donc on l'a toujours pas vu.
Donc il sert de totem, si vous voulez, pour faire passer les choses. Mais ça permet à toutes sortes de factions de se disputer.
Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de guide suprême, d'ailleurs, au fond? Véritablement, techniquement.
C'est dans le chiisme, il y a la notion de l'imam caché, donc d'une certaine manière, il l'incarne à sa façon, mais on n'en sait rien. Enfin, en tout cas, ceux qui sont ici n'en savent rien. Et puis, bien évidemment, ça s'inscrit dans un regain de tension aujourd'hui, et le fait que Israël soit l'État qui est surtout annoncé ce genre de choses va bien dans une tentative que font les Israéliens aujourd'hui de revenir en grâce dans le premier cercle de Donald Trump, puisque au fur et à mesure que la négociation avançait, Bibi Netanyahou se faisait tordre le bras de plus en plus. Bibi Netanyahou, dont vous avez certainement vu que pour la première fois il est en retard dans les sondages pour
dans
les élections.
De l'élection.
Voilà, de l'automne, il est doublé par le général Eisenhower. Cote d'origine séfarade.
Donc il pourrait être battu aux prochaines élections, Benjamin Netanyahou.
Enfin, une élection, c'est le jour où il y a eu les élections. Pas toujours, du reste, on le sait rarement avant, mais là, c'est la première fois.
En tout cas, il est en difficulté pour la première fois. Gilles Kepel, revenons quand même à cette question, effectivement, de cette menace qui pourrait être sur la vie de Donald Trump. Il l'a d'ailleurs reconnu lui-même, mais avec toujours une forme de légèreté étonnante, disant presque qu'il se gargarisait d'être la cible numéro un de l'Iran. Les phrases d'ailleurs prononcées, les slogans « mort à Trump » ont été entendus à de très nombreuses reprises, y compris écrites sur des banderoles
pendant les funérailles.
Quand je vous demandais est-ce que c'est à prendre au sérieux, est-ce que c'est plus aujourd'hui qu'hier? C'est-à-dire que est-ce que c'est une manière pour Israël de dire voilà, on est en effet dans le jeu, ou est-ce que c'est parce que cette fois-ci cette menace est plus sérieuse que d'habitude?
Ça peut être les deux. Il est clair que Netanyahou a aujourd'hui intérêt à montrer que aller négocier avec les Iraniens, c'est vraiment trop dangereux, et qu'il faut garder ses alliés traditionnels, c'est-à-dire Israël et surtout Netanyahou, qui est en difficulté. Par ailleurs, on voit bien l'exacerbation de la tension à l'intérieur des composantes de la société iranienne. Vous avez vu ce qui s'est passé, c'est que l'Iran, en fait, et les États-Unis ont signé ce Memorandum of Understanding, cet accord,
ce pré-accord,
déclaration préalable, et qui indiquait notamment que l'Iran garantissait la liberté de passage pendant les 60 jours. Mais l'interprétation de l'Iran, c'est que nous la garantissons. Donc, tout ce qui se passe en dehors de notre passage, nous l'interdisons.
Et donc, les bateaux, soit vous passez au large,
soit
vous passez
au
effectivement au plus près des côtes iraniennes. Et dans ces cas-là, ok, mais au moins vous êtes sous notre contrôle.
Vous avez demandé la permission et vous avez subi l'inspection, etc. Soit vous passez de l'autre côté en Oman. Alors, au départ, les Iraniens s'étaient entendus.
La partie sud,
le long de ce qu'on appelle le Musandam, c'est-à-dire le cap qui est omanais dans le détroit d'Ormuz au sud. Et Oman s'était plus ou moins entendu avec l'Iran, qui avait dit on va partager les frais de péage, etc. Et on imagine que la pression gigantesque des autres pays du Golfe, notamment du Qatar, des Émirats et autres, a été telle, ainsi que les États-Unis, que les Omanais ont fait un pas en arrière et désormais ont vu avec les Américains et les autres golfiotes le fait qu'il y ait cet autre passage qui est libre de mines actuellement dans lequel les bateaux pouvaient passer.
Mais c'est là que 3 navires ont été touchés, visés par l'Iran.
Et que l'Iran vise des navires de nationalité qui ne sont pas partis au conflit, d'une certaine manière, ça c'est dangereux. Mais là, le point de force, c'est que c'est un méthanier qatari qui a été visé. C'est-à-dire, un méthanier, c'est un bateau qui transporte du gaz, en l'occurrence du LNG sous pression, et c'est une bombe flottante. Si vous coulez un pétrolier, ça fait une marée noire, c'est déplorable, mais ça n'ira pas plus loin. En principe, là, ça risque d'avoir des conséquences de déflagration.
L'explosion peut être considérable.
Absolument. Alors, ce sont des bateaux qui sont surprotégés, mais néanmoins, c'est un signe qui n'avait jamais été atteint. Et surtout, pourquoi le Qatar? Alors que le Qatar, c'est le pays qui est le plus proche de l'Iran dans l'immigration.
C'est celui qui tente de, justement,
et c'est celui qui devrait être le premier à payer, puisque dans la perspective de dégel de fonds iraniens gelés, il y en a 6 milliards qui sont de dollars qui sont au Qatar et qui étaient peut-être mis sur la table. Donc on voit bien que à l'intérieur du système iranien, vous avez aujourd'hui une tendance, probablement à l'occasion des funérailles, qui essaye de reprendre le dessus et qui dit non, on va faire la pression militaire maximale avec tous les moyens, parce que sinon, si on lâche, on va perdre. Le détroit d'Ormuz, c'est notre garantie de sécurité. Si on commence à laisser passer des bateaux, même du côté iranien, alors du côté omanais, pardon, alors nous n'avons plus la possibilité de contrôler.
Gilles Kepel, je vais précisément essayer de comprendre, au fond, du point de vue iranien et du point de vue américain, ce qui se joue du point de vue iranien, si je vous comprends bien, c'est aussi une question d'influence au sein même du pouvoir iranien. Qui décide aujourd'hui? Qui décide, par exemple, de tirer sur ces 3 bateaux? Qui décide de remonter la pression? Qui
a les manettes? Il y a une instance qui le revendique, qui est ce qu'on appelle Khatam al-Anbiya, c'est-à-dire le sceau de la prophétie, qui est le nom du commandement militaire des gardiens de la révolution. Mais on n'a pas de figure particulière, il y a des porte-paroles qui se succèdent, et ce sont ceux qui revendiquent les frappes, tout en laissant encore une place à la négociation. C'est-à-dire, les frappes sont perçues comme c'est la faute des Américains, c'est eux qui ont commencé, ils nous ont provoqué en envoyant des bateaux dans le couloir omanais, on a tiré dessus parce qu'ils n'avaient pas à le faire, et du coup, ils ont bombardé l'Iran, ils ont pris le risque de briser le MOU, ça. Nous avons répliqué justement, et on va voir ce qu'on va voir. Mais l'idée, c'est de continuer à faire de la force, de la pression au maximum, tout en considérant qu'il peut y avoir une négociation à la fin qui est davantage dans les intérêts de l'Iran. Vous voyez, c'est ça. Et d'où Hormuz, parce que c'est aujourd'hui devenu leur enjeu principal. Il y avait jusqu'alors Hormuz et la situation au sud du Liban et au nord d'Israël. Ça a été relativement mis de côté pour l'instant. Et la focalisation, c'est Hormuz.
La question maintenant du point de vue américain.
Et si j'ose dire, il y a l'élément aussi. Hormuz, ça veut dire le prix du pétrole qui remonte.
Et ça, on l'a vu d'ailleurs de manière immédiate.
6,5%. C'est pas encore gigantesque, c'est à $75 à peu près, ou un peu plus maintenant.
Ça
a changé de sens.
Ça a changé de sens, ça a commencé à baisser, même si depuis une semaine, les prix alors là, pour le coup, au bout de la chaîne, à la pompe, était tout à fait stable, voire même remontait déjà légèrement. Gilles Kepel, du point de vue américain maintenant, certains disent qu'au fond, étant débarrassé désormais de son calendrier de festivités, notamment du 4 juillet, et même si la Coupe du Monde n'est pas terminée, les Américains ne sont plus dans le jeu, est-ce que ça veut dire aussi que Donald Trump, au fond, se dit « bon, j'ai peut-être un peu laissé se terminer cette guerre sans frapper suffisamment, je veux montrer que je suis capable d'aller jusqu'au bout. » Est-ce que cette théorie-là tient, ou est-ce qu'il n'est que dans des soubresauts de réponse ? Est-ce qu'il peut se dire, au fond, allez, je reprends la guerre parce que je l'avais pas vraiment fini ?
Il y a ça, et puis il y a lui aussi, il y a des élections. C'est-à-dire qu'il faut qu'il aborde dans la meilleure les meilleures conditions possibles les élections de midterms pour le parti républicain. Ce qui veut dire d'abord un enjeu d'image, ne pas donner l'impression de s'être couché devant l'Iran et d'apparaître affaibli, mais également de faire en sorte que le contraire, c'est qu'il faut que le prix du pétrole reste bas, puisque c'est la fameuse driving season.
Donc il est tiraillé en fait entre ces deux questions, se montrer effectivement victorieux et de l'autre côté en même temps mettre fin le plus vite possible à tout cela et que le prix du pétrole redescende.
Si possible, voilà. C'est un peu le dilemme dans lequel il est pris aujourd'hui. Alors bien sûr, dans cette rhétorique politique, quand on dit « je suis menacé de mort », etc., ça a un effet, on se rassemble derrière le drapeau, derrière le président.
Deux questions très importantes aussi sur lesquelles je voudrais vraiment avoir votre explication, Gilles Kepel. La question d'une éventuelle reprise aussi par Israël des bombardements après cette déclaration. Nous sommes prêts à attaquer l'Iran une troisième fois si c'est nécessaire. Mais d'abord, l'équilibre de la région, la question du rapport des uns et des autres, vous l'avez dit, un bateau qatari touché par l'Iran, alors qu'ils auraient plutôt intérêt à les ménager. Et puis, la question de l'Arabie Saoudite, de tous les pays du Golfe. Où en sont-ils aujourd'hui entre les États-Unis et l'Iran ?
Et pas seulement ça, mais aussi la Syrie, qui intéresse particulièrement la France, puisque Emmanuel Macron, accompagné
revient de cette première visite officielle,
Patrick Pouyanné, Rodolphe Saadé, entre autres, en Syrie, la Syrie apparaissant dans cette perspective comme un moyen de contourner le détroit d'Ormuz. Puisque en Syrie, vous aviez depuis l'époque du mandat français sur le Liban et la Syrie dans l'entre-deux-guerres, un oléoduc qui amenait les pétroles du sud de l'Irak, de la région de Kirkouk, Mossoul, etc., vers la Méditerranée. Ce qui évitait à l'Irak, qui aujourd'hui est complètement bloqué car son pétrole ne passe plus qu'au compte-gouttes par la Turquie et par le Kurdistan, de pouvoir exporter son pétrole.
C'est très intéressant, c'est-à-dire que Gilles Kepel, vous lisez cette visite, elle avait évidemment un rôle diplomatique, montrer que la France est le premier pays à revenir en Syrie depuis le changement de régime, mais aussi, vous avez presque dit, je crois, Emmanuel Macron accompagnait les patrons, comme si c'était eux-mêmes qui étaient au fond presque les meneurs. Et vous citez à la fois le patron de Total, M. Pouyanné, le patron de CMA-CGM, par ailleurs d'ailleurs propriétaire de BFM TV et d'RMC, qui lui s'occupe des transports, CMA-CGM, oui. Rodolphe Saadé. Ça veut dire que pour vous, c'est ça le nouvel enjeu, la stratégie de la Syrie ?
C'est un enjeu très important.
Faire ce choix-là.
Oui, puisque on n'en est pas là, hein, parce que les conditions de sécurité, Patrick Pouyanné et Labiani ne sont pas encore réunis.
Et d'ailleurs, il y a eu deux explosions, voilà, alors même
qu'on
que Emmanuel Macron était présent sur place.
Des djihadistes très méchants, mais c'est peut-être aussi le business d'autres pays de la région qui n'avaient pas envie de voir revenir les Français dans la boucle, on n'en sait rien. Mais c'est dans la recomposition globale, il y a ça, ces enjeux économiques très importants qui sont aussi l'évacuation des flux pétroliers dans la perspective qu'Ormuz reste difficile à traverser. Alors, tout le monde préfère ça, que ça soit
Mais il
libre.
Faut préparer la suite, en quelque sorte.
Voilà, il faut préparer les choses, et donc la visite en Syrie s'inscrivait aussi dans cette éventualité. On mettait des jalons, on n'en est pas encore là. Parce qu'il
y a le régime a vraiment changé en Syrie ?
Le régime n'est plus celui d'Assad. Bon, maintenant, Monsieur Sharia, c'est quand même un ancien djihadiste recyclé, alors qui donne toutes sortes de promesses, mais dont une partie des troupes n'ont pas du tout renoncé à leurs engagements de départ. Donc, il faut toujours être assez prudent. Il est visiblement très désireux de ne pas faire de faux pas, en particulier de ne pas intervenir au Liban, comme Trump l'avait incité à le faire. Et c'est aussi un élément de stabilité. La Syrie est un élément clé pour la stabilité l'identité du Liban. Et ça, bien sûr, pour la France, c'est un enjeu très important vu l'importance des liens entre la France et le Liban.
Gilles Kepel, Israël est prêt à attaquer l'Iran une troisième fois si nécessaire. Voilà ce que disait le ministre de la Défense israélien hier. Ça aussi, c'est crédible. Est-ce que ça veut dire que Israël se dit, mais irait-il sans les Américains?
Mais non, ils n'iront que s'ils ont l'autorisation de Trump. Et je n'ai pas l'impression que les États-Unis aujourd'hui aient besoin de faire entrer Israël dans le jeu, puisqu'il ne s'agit pas d'une guerre finale ou d'une guerre d'extermination dans les deux cas, mais d'une guerre qui fait que l'un et l'autre des négociateurs, si j'ose dire, l'Iran d'un côté et les États-Unis de l'autre, arrivent dans une position de force à la table des négociations. Et c'est pourquoi la dimension de l'attaque iranienne ressemble davantage à un peu une sorte de fuite en avant, parce qu'ils ont l'impression que c'est leur dernière carte. S'ils n'arrivent pas à contrôler Hormuz, si Hormuz leur échappe, alors ils n'ont plus rien.
Les Iraniens sont affaiblis aujourd'hui. Est-ce qu'ils sortent affaiblis ou renforcés de cette séquence?
Enfin, ils sortent renforcés sur le plan idéologique. Le régime a quand même tenu, ils ont résisté à la plus grande armada du monde, etc. On n'a aucune idée de l'ampleur des foules qu'il y a eu lors des obsèques de Khamenei, qui sont passées, qui ont fait montré une sorte de géographie du contrôle, parce que le cercueil est allé également en Irak, à Najaf et à Karbala, pour montrer un peu, pour marquer le territoire contrôlé par l'Iran dans la région, si vous voulez. Mais après, on a pu filmer de près.
Mais c'était difficile donc d'imaginer, et puis quelle part de cette foule était libre ou non
de s'exprimer.
Avec encore cette question, Gilles Kepel, du rôle de la Turquie, j'aimerais qu'on termine là-dessus, puisque c'est là qu'a eu lieu le fameux sommet de l'OTAN. Elle est dans le camp occidental ou elle est dans l'autre camp, la Turquie?
Elle est dans tous les camps à la fois, et ça, c'est la volonté de l'Anatolie et du Bosphore et des Dardanelles, c'est de faire le pont entre l'Europe ou l'Occident et l'Orient, voilà, c'est ça. Et bien sûr, les Turcs essayent de pousser leur avantage. La Turquie est devenue aujourd'hui une puissance militaire. Ce sont eux qui ont été les premiers à fournir des drones de manière systématique. Et puis c'est pas seulement Est-Ouest, la Turquie, c'est aussi la relation entre la mer Noire, c'est-à-dire le conflit russo-ukrainien, et la Méditerranée. Donc Erdogan essaye de faire monter son rôle. L'armée turque est la deuxième armée en nombre de soldats dans l'OTAN, après les États-Unis. Et donc l'objectif, c'était de renforcer ce rôle de la Turquie, qui veut bien sûr jouer sa partie au Moyen-Orient, face à des rivaux comme les Émirats Arabes Unis, par exemple, en s'alliant parfois avec l'Égypte, parfois avec l'Arabie Saoudite. Mais cet ensemble est extrêmement fragile, comme vous l'avez remarqué tout à l'heure, votre question. On voit bien que les alliances conjoncturelles des uns et des autres peuvent se faire et se défaire. La guerre a complètement déstabiliser, voilà, et ça n'est pas redistribué, si vous voulez.
Elles sont pour l'instant éparpillées, en quelque sorte.
Exactement. Et c'est le cas, par exemple, du Conseil de coopération du Golfe, où on voit que l'Arabie Saoudite et les Émirats ont des stratégies complètement différentes aujourd'hui, y compris dans la région, que le Qatar joue sa partie en étant aussi pris en otage de l'Iran quand il va trop loin. Donc tout ça est un enjeu de lecture extrêmement complexe, et on n'a pas fini d'en
parler. Chacun, finalement, a sa propre partition à jouer.
En grande partie, oui.
Merci beaucoup, Gilles Kepel, d'avoir répondu à mes questions ce matin et nous avoir éclairé sur la situation aujourd'hui. Vous êtes professeur émérite des universités, spécialiste du Moyen-Orient.